temporaire. Comment va se passer le calendrier et la vie du musée?
Alors en gros, effectivement, il y aurait certainement trois salles réservées pour des expositions temporaires, lors de 2 à 3 mois, peut-être avec visite possible 2 à 3 fois par semaine. Ces expositions pourraient rester en place ensuite jusqu'à la prochaine organisation pour être visitées sur demande par des groupes ou par l'Office du tourisme, par exemple. Ensuite, 2 salles pourraient être consacrées au patrimoine montaisan et plus particulièrement aux industries, puisque le patrimoine de Monté actuellement est constitué des industries qui ont vécu à Monté. Certaines ont disparu bien anciennement ou très récemment.
Tout ça dans un écrin ultra moderne.
Voilà, effectivement, c'est vrai que notre patrimoine, il est constitué certainement de quelques objets. Nous avons beaucoup d'objets qui viennent de la verrerie, par exemple, mais sur les autres industries, nous n'avons pas grand-chose. Quand on pense à l'industrie des cigares de Monté, des savonneries ou des horloges, il y a peu d'objets qu'il reste. Par contre, on n'a pas seulement de documents, soit des documents des actes, de ce genre de choses, des décisions, des factures, des catalogues, etc. Et ça, il faut les mettre en valeur, mais c'est pas facile de les exposer tels quels. On peut peut-être les avoir sur des écrans et le public pourrait choisir lui-même ce qu'il a envie de voir et jusqu'à quel point il a envie de savoir par une cascade de menus jusqu'où il veut aller sur ces industries, par exemple.
Pour ce futur musée qui va s'installer ici dans le château de Monté, on a pensé aussi aux enfants et la façon d'intéresser peut-être le jeune public au patrimoine.
C'est d'avoir une salle où on pourrait faire venir des classes, les intéresser à l'exposition temporaire peut-être du moment ou aller aux expositions permanentes et avec des moyens ludiques, les faire participer un petit peu et intéresser à l'histoire de leur ville. Oui.
Il faudra, entre guillemets, passer par le recrutement peut-être d'un muséologue. Là, vous planchez aussi déjà sur la recherche de ressources humaines ici?
Nous sommes en plein dedans, effectivement, oui. Nous allons certainement accorder un mandat à un bureau qui va nous aider effectivement pour l'aménagement muséographique, aussi l'aménagement technique, puisque, comme on le disait, nous avons peu d'objets, mais surtout des documents pour les mettre en valeur. Il y a des façons de faire maintenant, mais dans le comité, nous n'avons aucun professionnel de ce domaine. Donc un bureau va nous aider pour la muséographie d'une part, et aussi pour l'organisation de la première exposition que l'on entrevoit, soit en novembre, décembre, soit au début de l'année 2025.
Avec une utilisation intérieure, extérieure, la création de jardins, ou aussi la possibilité d'utiliser la cour à l'avant du château.
Alors c'est vrai que ce château a des richesses, il est mal connu du public et même des Montaisans. Dans le cadre de nos projets, effectivement la cour pourrait être utilisée pour différentes choses. Et puis il y aura aussi la création d'un accès depuis une des salles sur les jardins autour du château. Alors ces jardins pourraient servir pour des prolongations d'exposition avec des sculptures ou des objets, mais aussi peut-être pour utiliser lors des vernissages ou des rencontres, ou même mis à disposition peut-être d'autres sociétés, d'autres événements.
Et si on remonte un peu dans le temps, ici, qu'est-ce qui se passait?
Par exemple, dans la salle où nous trouvons maintenant, juste à l'entrée qui donne sur l'accès sur la cour, il y a eu une école, il y a aussi eu le poste de police. Avec l'école et le poste de police, on remonte déjà dans les années 50.
Quels sont vos souhaits pour ce futur lieu culturel?
Eh bien, on espère déjà que les options que nous avons discutées avec la commune et avec les architectes nous permettront effectivement de remplir les buts de nos statuts, donc la conservation, la mise en valeur. Et puis on espère qu'on pourra mettre en valeur de façon attractive nos collections, qu'elles intéresseront le public. Et on espère voir venir le public, effectivement.
L'investissement s'élève à environ 650 000 francs pour la commune, mais faire découvrir au monde entier, mais aussi aux Montésanes et Montésans qu'on a un patrimoine, bah ça vaut au moins ça.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On continue ce mag avec des tout-petits, ou plutôt avec celles et ceux qui les gardent. La Frage, la fêtière des réseaux d'accueil de jour des enfants du canton de Vaud, a dévoilé en fin de semaine dernière sa stratégie 2024-2032. Afin de coordonner ses activités et de répondre aux enjeux toujours plus importants de l'accueil de jour de l'enfance, l'association souhaite proposer de nouvelles pistes d'action politique et opérationnelle. Parmi les priorités, l'accueil inclusif ou encore l'attractivité des métiers liés à la petite enfance. Au micro de Julie Gay, la présidente de la FRAJE, la Veuvezanne, Laurie Villomet, est revenue sur le rôle de la fêtière vaudoise.
Son objectif premier, c'est déjà de représenter les réseaux d'accueil de jour du canton de Vaud. Donc à la base, c'est le but premier de la FRAJE, c'est pour ça qu'elle a été créée. Et du coup, ça fait que c'est un interlocuteur unique, central, qui peut représenter les réseaux, donner une réponse harmonisée, une vision d'ensemble aussi sur l'accueil de jour cantonal. Et puis c'est vraiment un organe, du coup, une association qui est au service des réseaux et de l'accueil de jour.
Alors la FRAJE, elle représente 24 réseaux précisément. Comment ça se passe? C'est vous qui allez démarcher un peu les différents centres d'accueil para-préscolaires, ou alors on vous demande de faire partie du réseau? C'est comment que ça se passe concrètement?
Je dirais que quand elle a été créée, la majorité des réseaux l'ont rejoint, puis maintenant on est vraiment dans une stratégie de croissance, donc on a effectivement envie que les nouveaux réseaux ou d'autres anciens réseaux qui ne sont pas membres nous rejoignent. Donc on fait quand il y a des assemblées autour de l'accueil de jour, on va discuter avec les réseaux qui ne sont pas membres, on fait vraiment un peu, on peut appeler ça du lobbying.
Alors hier soir, vous avez tenu une assemblée générale, l'assemblée générale de la FRAJE. Vous avez notamment dévoilé la stratégie 2024-2031. Il fallait une nouvelle stratégie. Comment ça s'est passé? Vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez embauché une nouvelle personne pour élaborer un peu ce catalogue.
Oui, c'est ça. Il y a 2 ans, on a vraiment eu un questionnement au niveau de la FRAJE, mais maintenant, en fait, on a un interlocuteur unique dans le canton et il faut qu'on se positionne comme tel. Donc, on a engagé il y a une année un collaborateur scientifique qui était en charge notamment de développer cette stratégie. Donc pour ça, il est allé rencontrer chaque réseau, un membre politique opérationnel de chaque réseau, pour voir un petit peu quels étaient les enjeux. Et cette stratégie, elle s'est construite comme ça. Et puis hier soir, on a pu la présenter. C'était important, voilà, pour ces prochaines années, de bien positionner la FRAJE.
Vous avez mentionné hier soir des priorités, notamment la défense politique de l'accueil du jour de l'enfance. On doit continuer tous les jours à se battre dans ce sens.
Oui, c'est vraiment essentiel. Dans le canton de Vaud, les choses se passent plutôt bien, mais on a vu sur Genève récemment où l'accueil de jour a été attaqué. Donc nous, c'est un peu notre but premier, cette défense de l'accueil de jour, la défense de la qualité de l'accueil de jour, la défense des réseaux. Donc oui, c'est essentiel.
L'accueil inclusif, le fait d'avoir des enfants à besoins particuliers qui se mélangent tout à fait avec des personnes qui ne vivent pas avec un handicap, ça c'est une envie que vous avez envie de poursuivre ou de promouvoir?
Ça c'est vraiment, je dirais, une des thématiques centrales de la stratégie, mais aussi actuelle. La semaine dernière, on a publié avec d'autres associations une prise de position, justement, qui demande au canton un concept d'inclusion dans l'accueil de jour des enfants. Donc on est vraiment en plein dedans, dans le développement de cette stratégie, d'une vision cantonale sur ces questions-là. C'est super important, ça va continuer d'être important les prochaines années.
Alors, dans quelle mesure les différents réseaux qui sont associés à la FRAJE ont une marge de manœuvre, peuvent choisir, nous on a envie d'aller dans cette dynamique-là, nous on n'est pas apte, on n'a pas l'effectif nécessaire pour le faire?
Mais c'est bien ça qu'on reproche un petit peu, c'est que pour l'instant c'est un peu flou. C'est un peu au bon vouloir des réseaux, des communes, et puis il n'y a pas vraiment de vision globalisée. Ça crée pas mal de disparités en fait entre les communes et les réseaux. Les réseaux qui ont envie d'investir là-dedans, doivent le faire eux-mêmes, investir eux-mêmes souvent beaucoup d'argent. Et puis c'est pour ça qu'on s'est réunis, qu'on a dit mais maintenant on aimerait une vision globale aussi pour que chaque enfant en fait, et peu importe dans quel réseau il soit, qu'il ait finalement les mêmes chances, et aussi pour le personnel.
Justement, on parle du personnel, il y a une autre priorité de votre stratégie, la formation. Est-ce qu'on se désintéresse un peu de ces métiers de l'éducation qui sont liés à l'enfance? Il y a besoin de s'investir et de donner envie et de dire c'est un beau métier, allons dans ce sens.
Il y a 2 axes, c'est sûr que c'est un métier qui n'est pas très, très visible. Il faut absolument le revaloriser. Donc ça, c'est un des axes qui est très important. On voit que les jeunes, par exemple, ne pensent pas à l'accueil de jour comme formation tertiaire, par exemple. Au niveau de l'apprentissage, c'est un peu plus, ça a une meilleure réputation, mais moins au niveau tertiaire. Et puis, l'autre gros point en lien avec la formation, c'est la pénurie de personnel à laquelle on est confronté. Pour l'instant, ça va, mais tous les réseaux disent bientôt, on n'arrive plus à recruter. Donc oui, on doit s'y attaquer et c'est un autre axe qui est super important.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On va terminer ce mag avec d'un côté du métal industriel et de l'autre moi qui joue les journalistes. Samedi dernier, avec en première partie les groupes Montezans de Jane Barnell et Jacuzzi Jaguar, le groupe français Sidi Larsen se produisait au Pont Rouge de Monté. Un groupe qui a sa fanbase dans la région, on l'a vu durant le concert, mais bien que la Suisse ne soit pas encore pour eux un territoire conquis, ça devrait arriver. Sidi Larsen, c'est surtout un groupe qui a une vraie proposition musicale avec un style mobile qui gratte ou ça démange, un rythme percutant et une intensité qu'on peut qualifier de poussive. Mais qui sont ces Toulousains qui sont venus conquérir le Chablais? En somme, Sidi Larsen, c'est quoi? Si tu as raté leur concert, voici une petite explication de la main de Viber, l'un des deux chanteurs du groupe, histoire de bien te faire regretter de ne pas être venu.
Alors, Sidi Larsen, c'est notre 8e album. Ce soir, c'est le début de la tournée de Que la lumière soit à Tours, donc le nom du nouvel album Que la lumière soit.
Qui est sorti cette semaine.
Qui est sorti le 19 avril, exactement. Et on est en train de débuter la tournée avec voilà, des belles dates. C'est très bien reçu, on se fait très plaisir. Et on présente des nouveaux morceaux, dont un en plus en exclusivité totale et mondiale, puisqu'on n'a jamais joué sur scène encore.
Arrête, ça va être ce soir à monter ?
Voilà, c'est ce soir.
On a enregistré l'album, là maintenant il va falloir le jouer. C'est quoi cette sensation qu'on a, justement après l'avoir travaillé autant, l'avoir enregistré ? Qu'est-ce qu'on ressent pour le genre en le jouant pour la première fois ?
Il y a pas mal d'étapes, c'est-à-dire que ouais, il y a tout l'enregistrement et la première fois qu'on reçoit le master tout terminé, et donc là on l'écoute beaucoup et voilà les détails tout ça, et puis après on le bosse en répétition, là déjà on commence à kiffer, voir ce qui va pouvoir se passer et qui a l'air de marcher. Et puis après, premier test sur les premières dates, avec la difficulté en plus, c'est que... Enfin, c'est une difficulté, c'est un problème de riche quand même. C'est de... Avec 8 albums, faut faire un set qui tient la route. Il y a des morceaux qu'on est obligé de jouer, incontournables, et qu'on prend plaisir à jouer d'ailleurs. Mais il faut réussir à caser les nouveaux pour que le rythme soit efficace tout le long du set, etc.
Oui, parce qu'il y a ce côté-là où on a les chansons que tous les fans aiment, qu'on est obligé de jouer, et puis en même temps, il y a ce qu'on vient de produire et puis qu'on a envie de jouer.
Oui, évidemment, on est là pour avant de tout défendre le nouvel album, donc oui, il faut quand même intégrer des nouveaux morceaux. On a voulu y aller doucement pour se les mettre dans les doigts et dans nos cordes vocales, et ça se passe très bien. Il y a des petits ajustements et tout, mais c'est un plaisir parce que c'est la deuxième vie. Et je dirais pas la vraie vie, mais en tout cas, oui, c'est une deuxième vie des morceaux. Leur vie en live, elle sera très longue, elle ira très loin, et il y aura de multiples évolutions dans des détails, etc. Effectivement, des morceaux qu'on joue depuis 15 ou 20 ans, ils ont évolué au fil du temps, quoi. C'est pas, ils ont pas changé radicalement, mais il y a différentes façons de faire, différentes façons de les amener, etc. Donc ouais, c'est un bonheur, puis voilà, les partager en direct avec les gens et voir ce que les morceaux dégagent, parce que à partir de là, ils nous appartiennent plus vraiment, ils appartiennent aux gens, et c'est cette énergie là qui va faire devenir ces morceaux.
Vous partez du principe qu'elles vous appartiennent plus, finalement c'est quelque chose que vous avez fait et qu'elles doivent vivre de leur propre gré, pour ainsi dire.
Ouais, c'est ça. Ouais, on n'a pas envie de limiter les choses. Et là, tu vois, à l'heure actuelle, on sait pas quels sont les... On s'en doute, mais on n'est pas sûr de quel single il y aura, par ceux qu'on a sortis, mais au fil du temps. Je pense à Des Milliards, par exemple, quand on l'avait sorti sur album, on pressentait qu'il pouvait se passer quelque chose, mais que ça devienne un classique du groupe à ce point, on l'avait pas trop vu venir. Et donc ça, c'est passionnant aussi. Et ça, c'est le public qui le fait. Ça, effectivement, c'est pas nous. À moins que, qu'on joue mal des morceaux, ou qu'on fasse exprès qu'on se force à jouer des trucs qu'on kiffe pas. Mais vu que c'est pas le cas.
Ça a pas l'air de style de la maison, c'est ça ?
Non. Nous, on donne tout ce qu'on a et on fait ce qu'on aime. Ça, y a aucun souci. Et donc après, c'est vraiment le public qui adopte les morceaux et qui les fait devenir ce qu'ils seront plus tard. Voilà.
Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, faut savoir que vous chantez en français. C'est assez rare pour le souligner. Il y a beaucoup de groupes qui passent à l'anglais pour des raisons ou une autre. Vous avez décidé de rester sur le français. Pourquoi ? Enfin, sauf sur Sunburn, j'ai écouté tout à l'heure, ou dans le dernier album justement, mais sinon c'est surtout en français.
Oui, même Sunburn, il y a 2-3 mots, mais des fois il y a des notions, comme j'ai déjà dit pour l'album précédent, qui marche mieux en anglais, donc pourquoi pas, mais c'est vraiment, c'est très très limité, le cœur de l'histoire, c'est vraiment du français. On y tient parce que voilà, c'est notre langue maternelle, et on trouve qu'on va plus loin avec ça et que c'est plus sincère et surtout plus proche de nous. Et comme on a envie de que les gens puissent s'identifier aussi à notre musique, vraiment partager les choses au premier degré, le français nous paraît le plus évident.
Surtout que vos textes sont plutôt profonds, résolument engagés. Est-ce que justement c'est le meilleur moyen, c'est finalement le français ?
Oui. Alors déjà merci de dire qu'ils sont profonds, ça fait plaisir. On essaie, ouais. Et surtout ils nous ressemblent. Voilà, ce qu'on chante, c'est nous. Et je pense que les gens sentent ça et du coup on a l'impression qu'ils viennent nous voir, pas juste écouter des morceaux d'un groupe qui joue. Il y a un truc peut-être plus intime.
Et en parlant d'intimité, ce soir c'est une toute petite salle. D'habitude vous jouez dans des plus grandes salles que ça, à guichets fermés en France, en Belgique. Qu'est-ce que ça fait justement ce petit côté intime ? Comment vous l'appréhendez ?
Ah, nous on adore faire exploser les clubs quand c'est possible et qu'il y a du monde, que le son est bon. C'est vraiment un plaisir parce que c'est une autre énergie, quoi. C'est une énergie très très rock, très... Voilà, on va transpirer ensemble, ça c'est... Et après, dans d'autres lieux, mais comme on a fait hier à Aix, là, c'est une grande salle, et il y a plus de distance, donc forcément, c'est plus par procuration, voilà, c'est moins proche. C'est très bien aussi, mais c'est une expérience différente. Vraiment, on aime les deux. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir proposer le meilleur spectacle possible partout, d'essayer de s'adapter au maximum, et voilà, j'espère que ça marche.
Pour les gens qui sont pas venus, une petite dernière chose, on va écouter une chanson, je te donne carte blanche. Quelle chanson on va écouter ?
On va écouter Adelphité, et c'est ce morceau-là qu'on va jouer ce soir pour la première fois.
Et le morceau Des potes, je préviens, avis aux fans de métal, vous allez kiffer, les autres découvrez tout simplement. Cette interview avec Viber de Sidi Larsson est à retrouver en replay sur notre site et notre application mobile. Et maintenant, attention métal.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Pas des rétros, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Qu'est-ce que c'est un concours de Miss ? Sérieux, personnellement, j'en ai jamais fait, ou peut-être pas encore, il faut pas cracher en l'air, mais j'ai toujours eu un petit peu de curiosité pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qu'ils font qu'on voit pas et ce genre de truc. Bon, il se trouve que je suis avec Alizée Delgado, salut.
Salut Loïc.
Tu es finaliste pour le concours Miss Suisse francophone 2024.
C'est exact.
Tu viens de Lézin, tu représentes le canton de Vaud et tu le dis toi-même que tu représentes aussi un petit peu le Chablais.
Le Chablais vaudois, exactement.
Bon, alors ça déjà, j'adore. Approche-toi un tout petit peu plus du micro, s'il te plaît. Et puis, là, je vais pousser là, tac. Et ça, j'aime bien parce que moi, je suis très, très, très chablaisien. Bon, commençons directement dans le vif du sujet. Un concours de Miss, c'est quoi ?
Alors, fondamentalement, un concours de Miss, c'est un concours de beauté qui a pour but d'élire une représentante de sa région, de son canton, ou bien de son pays, en l'occurrence, comme pour Miss Suisse francophone. Le but ultime étant de trouver son Mister et sa Miss, parce que les deux sont en même temps pour la Suisse. Pour Miss Suisse francophone, c'est une vraie aventure qui va beaucoup plus loin que ça et qui va durer 9 mois. Mais depuis les premiers castings jusqu'à la finale, il y a 9 mois d'aventure où il va se passer énormément de choses, énormément de belles rencontres, énormément de beaux partages, de beaux moments. Donc c'est beaucoup plus complet qu'une simple élection de beauté, en tout cas pour ce concours-là en Suisse.
Bah ouais, parce que 9 mois, on imagine qu'un concours de Miss, normalement, bon, ok, t'as peut-être la finale cantonale ou un truc comme ça, la finale régionale, mais 9 mois pour une soirée, en fait, c'est beaucoup plus qu'une soirée, un concours de Miss.
Alors, il y a au moins 2 soirées, il y a eu déjà l'étape de la demi-finale qui s'est tenue au mois de février à Bulle, et la finale qui va se tenir à Écublens le 30 juin. Mais pendant ces 9 mois d'aventure, il y a énormément de promotours, énormément d'événements autour de ce concours qui font que c'est hyper chouette d'avoir ces 9 mois pour vivre cette expérience. Et on apprend à découvrir des gens, se découvrir soi-même. Il y a des vrais moments de partage. Et du coup, c'est assez chouette d'avoir ce grand laps de temps sur l'année 2024 pour pouvoir vivre à fond cette expérience.
Juste rapprocher un petit peu. Ouais, rapproche-le. Yes, là, on y est. Parfait. Et donc, 9 mois. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre justement comme expérience ? Donne-nous juste, tease-nous un petit peu parce qu'après on discutera un petit peu plus de ça en deuxième partie, mais qu'est-ce qu'on vit durant ces 9 mois d'expérience ?
Il y a beaucoup de promotours.
Qu'est-ce que c'est un promotour ?
Un promotour, c'est des défilés des demi-finalistes ou bien des finalistes dans des lieux, des sponsors. Donc ça rassemble beaucoup de familles, beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, qui viennent nous voir, nous soutenir, qui peuvent voter. Il y a également beaucoup de shootings dans des lieux tout à fait différents. On a été à Stadt, on a été dans beaucoup d'endroits auxquels on n'aurait pas forcément pu se déplacer, notamment on a été jusqu'à Berne. C'était hyper chouette. Et il y a aussi des moments comme des journées sportives ou bien des rassemblements qui permettent vraiment d'assurer la cohésion sociale du groupe. Et ça, c'est hyper chouette.
Tu parles de cohésion sociale du groupe. Donc, tu es en train de me dire qu'en fait, malgré que vous soyez, vous êtes... je perds mes mots. En compétition, merci beaucoup. C'était difficile. Vous êtes en compétition, mais en même temps, pas. Comment ça se passe?
Finalement, pas tant que ça. Alors, ça reste une compétition, bien sûr, dans le sens où, à la fin, il y a deux écharpés, un garçon et une fille. Mais finalement, pas tant que ça. En tout cas, moi, le maximum de soutien que j'ai pu recevoir, c'était au sein même de cette aventure, de par les autres candidats. On passe 9 mois ensemble, ce qui est énorme. On se voit en ce moment une fois par semaine, ce qui est tous les week-ends, ce qui est hyper chouette. Donc, il y a des vrais liens qui se tissent. Non, l'esprit de compétition n'est pas encore, en tout cas, vraiment là.
Déjà, tu vois, t'as pu déjà démystifier quelque chose, parce qu'on pourrait imaginer qu'un concours de Miss, c'est presque un combat à mort, et en fait, pas du tout. Il y a une super bonne ambiance. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale, et puis qu'on revienne dans un tout petit moment, histoire de continuer à parler de ces petits détails dont on ignore tout dans un concours de Miss.
Radio Chablais, programme de nuit.
Va des rétro, Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
C'est tout de suite beaucoup plus clair.
Un concours de Miss, c'est avant tout un concours de beauté qui cherche à élire son ambassadrice qui se discute d'abord au niveau régional ou cantonal ou suisse ou mondial ou universel. Suivant le concours, Alizée Delgado est finaliste à Miss Suisse Francophone 2024 qui est une aventure qui dure 9 mois avec des événements promotionnels, des défilés, des shootings photos dans des endroits géniaux et avec un travail fait énormément sur la cohésion. Alizée Delgado, finaliste de Miss Suisse Francophone 2024. Ça m'a beaucoup surpris en fait que vous parliez que tu parles de cohésion de groupe alors que finalement vous êtes censé être en compétition. Comment ça se construit ça?
Alors oui, on est toujours quand même malgré tout en compétition. Du reste, ça va bientôt faire 9 mois qu'on se connaît, qu'on se côtoie vraiment une fois par semaine. Donc non, moi de mon côté, en tout cas, je me suis fait de très bonnes copines. Et j'ai pas forcément l'intention que ça s'arrête avec la fin du concours. Mais on a aussi tellement d'événements où on est entre nous, en groupe, où on doit travailler ensemble, que forcément, il y a des liens qui se créent. La compétition, elle arrive plus après. En tout cas, de ma part, l'esprit de compétition arrive bien, bien après. Mais on verra la finale.
Après, c'est vrai que la finale, parce que bon, l'esprit de compétition n'est peut-être pas ultra incisif, mais en même temps, on est quand même là pour gagner, sinon on ne se présente pas, on est d'accord.
On est d'accord, je m'entends quand même du reste très bien avec les Valaisannes, je tiens à le préciser.
Ah, ça c'est beau, ça c'est la chablaisianitude. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres concours qui mettent autant en avant cette cohésion de groupe? Miss Suisse francophone 2024.
Je pourrais pas parler de ce que je connais pas, notamment pour les autres pays où je me suis pas présentée. En tout cas, pour la Suisse, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de chance que cette aventure soit faite ainsi. Notre directeur fait des concours de beauté depuis 20 ans. Ferdi Avmedoski, qui est un homme juste du concours de beauté depuis 20 ans. Miss Suisse francophone existe depuis 2012. Donc, je crois qu'il a vraiment créé un concept assez long dans le temps, de manière à ce qu'on ait la possibilité, le temps de créer ces liens aussi. Ça va nous faire des super souvenirs. On est hyper bien encadrés. Et je trouve ça plutôt chouette finalement. Donc je pense que non, en Suisse, on a cet avantage-là de pouvoir créer des liens aussi forts.
Et puis si on parle un petit peu si on continue de parler justement de tout ce qui se passe en coulisses, tu me parlais tout à l'heure hors micro de coaching. De quoi est-ce qu'il s'agit?
Alors les coachings, c'est des événements où on va aller par des professionnels, soit des anciens candidats, des anciens écharpés qui viennent et qui nous donnent leurs conseils, soit par des vrais professionnels, que ce soit notre parrain ou notre marraine qui sont des pointures au niveau artistique qui peuvent nous transmettre leurs conseils, ou bien directement les membres du comité. Mais on est vraiment drivé sur l'image qu'on doit avoir, l'image qu'on doit donner, la manière de marcher, de défiler. Tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Je pense que toutes les candidates et tous les candidats, aussi charmants soient-ils, finalement, sont pas arrivés dans ce concours avec tous les outils. Et c'est important aussi l'encadrement qu'on a de la part du comité pour nous donner tous ces outils et faire en sorte qu'il y ait un avant et un après. On a le temps de voir pendant ces 9 mois toute la progression. Et c'est ça que, ce qui est aussi chouette à la fin, c'est de pouvoir voir la progression que chaque personne a faite durant cette aventure.
Oui, parce qu'en fin de compte, les participants et participantes sont pas forcément des mannequins professionnels, ils ont pas tous ces tips. Et c'est ces choses-là que vous apprenez, c'est des choses du mannequinat ou bien est-ce qu'il y a encore d'autres choses?
Oui, alors c'est des choses du mannequinat, c'est aussi la manière de poser devant un photographe, c'est aussi la manière de marcher avec des talons. C'est tout ce qui peut entourer un concours de Miss et qu'on n'a pas forcément quand on arrive dedans. On est très bien encadré et je pense qu'on a beaucoup de chance de ce point de vue-là dans cette aventure.
Est-ce qu'il y a un petit détail peut-être qu'on pourrait ignorer, qui se voit pas à la caméra, qui se voit pas le jour des concours, où on a que vous vivez un petit truc?
Il y a toujours les quelques petites minutes de stress avant de monter sur scène, je pense. Ces moments où on est dans les loges justement tous ensemble, mais ça fait aussi partie des moments où les liens se tissent. On est un petit peu comme ça, on est à 3-4 minutes de monter sur scène et il y a un petit peu ce stress, mais en fait on est tellement bien entouré. Et l'ambiance est tellement bonne dans tous les événements qu'on fait que finalement, nous, on est très contents d'être là. Et puis, le stress s'en va assez vite. Mais par exemple, ce week-end, on est à Palexpo, à Genève, pour le CIWEL, le Salon International de la Beauté. Et bien sûr, devant autant de personnes, il y a toujours ces quelques minutes de stress. Mais une fois sur scène, finalement, ça passe.
Oui, puis en plus, peut-être là, plus qu'ailleurs, parce que là, c'est le Salon de la Beauté. Donc forcément, vous êtes un peu une inception du coaching.
Oui, et alors on est très très content de pouvoir défiler dans ce salon. C'est un grand salon qui se passe à Genève, donc le 4 et 5 mai. Vous pouvez acheter du reste vos billets sur le site internet du CIWEL. Mais ça va être vraiment chouette. Tous les finalistes seront là. Et donc j'encourage vraiment toutes les familles à aller encourager ces personnes.
Et par contre, je me posais la question, en fait, comment ça fonctionne? C'est-à-dire, c'est quoi les étapes pour arriver à être finaliste Miss Suisse francophone? Est-ce que d'abord on fait la ville, après le canton, après la région? Comment ça se passe?
Ah, ça va être la grande nouveauté de cette édition 2024. Ça va être le retour des Miss cantonales. Donc, en plus de Miss et Mister Suisse francophone 2024, vous aurez la chance d'avoir Miss Valais, Miss Canton de Vaud, Miss Neuchâtel, Miss Fribourg, etc. Donc ça, c'est hyper chouette et c'est hyper fédérateur pour les régions parce que les gens adorent. Donc, c'est chouette d'avoir une ambassadrice ou un ambassadeur beaucoup plus proche finalement, donc au niveau cantonal. Et sinon, les étapes de sélection se font par un casting. Les inscriptions pour l'édition 2025 sont d'ailleurs ouvertes. Vous pouvez aller vous inscrire sur www.missuissefrancophone.ch. Il y a des castings organisés un petit peu partout en Suisse francophone. L'étape de la demi-finale et finalement la finale.
Donc c'est la finale cantonale, elle viendrait plus tard, c'est ça?
Tous les détails pour 2025, là. Mais ça sera par exemple pour Miss Valais 2024 de prendre le flambeau et d'organiser un petit peu son petit comité pour l'année prochaine et de chercher la personne qui va lui succéder pour après reprendre le chemin Miss cantonale, Miss Suisse francophone et après l'international, parce que ce concours envoie aussi beaucoup à l'international. Le Mister de cette année a fait Mister International, justement, pour 2023, ouais.
Okay.
Il y a beaucoup, beaucoup de portes qui s'ouvrent dans ce monde, ouais.
Ok, et juste pour... mais toi, avec Miss Francophone, justement, tu pourrais aller où après si tu gagnais?
Déjà, je pourrais revenir à Radio Chablais, ça me ferait très plaisir, avec ma copine Miss Valais. Il y a des portes pour l'international qui s'ouvrent, donc il y a beaucoup de concours de beauté, il y en a 5 gros au niveau international. Donc ça pourrait être une des possibilités.
Bon, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite que ça puisse arriver. Et puis, en fait, grâce à toi, on s'y connaît un petit peu mieux parce que c'est vrai, souvent les concours de Miss, ils sont un peu stigmatisés. On a souvent ces images où, personnellement, à titre très personnel, je trouve franchement un peu salaud. Quand on prend ces personnes-là, on leur pose des questions dans un moment de stress maximum et puis en fait, on va juste les railler. Mais en fait, c'est tout un monde et les gens qui vont au concours de Miss, au concours de Mister, c'est parce qu'ils veulent, ils ont du plaisir là-dedans.
Exactement. Après, le concours que je représente, moi et pour lequel je me suis inscrite à des choses quand même différentes. L'exemple le plus concret, c'est typiquement l'âge de nos candidates cette année va de 16 à 39 ans. Il n'y a pas de critères de taille, pas de critères de poids, pas de critères... Enfin, c'est vraiment un concours qui a su évoluer vraiment dans le bon sens, où on a l'esprit peut-être un peu plus ouvert. Et du coup, c'est chouette parce que tout le monde peut se présenter. Il y a forcément quelque chose à aller chercher, quelque chose de bien chez tout le monde. Et c'est hyper chouette.
Et c'est ça qu'on veut essayer de mettre en avant finalement.
Exactement, exactement.
Ben, franchement, merci beaucoup Alizée Delgado d'être venue nous expliquer ce que c'était qu'un concours de Miss. Je rappelle que tu es finaliste pour Miss Suisse francophone 2024. Tu représentes le canton de Vaud, mais également le Chablais-Vaudois. Merci infiniment. Je te souhaite une excellente soirée. À tout bientôt.
Merci.
Bonne nuit sur Radio Chablais. C'est chaud.
Sur le grill.
Un chef papou qui vient du côté de Lézin, c'est ce qu'on vous propose justement comme thématique. C'est le 1er mai prochain. Stéphanie Dervais, Nicole Gromeau, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous organisez cette soirée. Déjà, juste nous expliquer qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il y a un chef papou qui débarque sur les hauts de Lézin.
Eh ben, en fait, je voulais juste acheter les livres qu'ils ont sortis avec le réalisateur Marc Dezier.
Ouais.
Et puis, du coup, ils sont introuvables. Je l'ai eu au téléphone et puis il m'a parlé de ses projections rencontres. Et puis qu'il était ouvert à venir en Suisse. Et puis je me suis dit, mais il faut faire ça.
Tout simplement.
Voilà.
Le délire, il part de là, c'est qu'en plus, bah, vous avez une librairie, hein, Stéphanie Dervais, justement, à Lézin. Alors, juste placer le contexte. Marc Dezier, donc, le réalisateur, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il fait ?
En fait, il est photographe et puis il réalise des documentaires qui sont principalement axés sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis qui sont à but écologique, pour
okay.
montrer la situation sur la déforestation. Et puis il travaille principalement avec Munditjie Kepanga, qui est le chef papou de la tribu des Ouli, qui vient parler de son engagement pour protéger la forêt.
Alors ça, ce sera donc ce 1er mai. Nicole, dites-nous un petit peu, c'est où, c'est quoi, c'est comment, c'est quel horaire, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors en fait, ce sera donc le 1er mai à Lézin,
ouais.
À la Les American School, exactement, donc dans leur salle de gym,
okay.
à 19h30, et c'est vraiment une projection rencontre. Donc Marc Dezier et le chef papou, ils seront là et on pourra échanger avec eux.
On va donc pouvoir voir le film.
Tout à fait, voir le film.
Voir la situation, hein, vraiment, comment ça se passe actuellement en Papouasie et Nouvelle-Guinée. Pourquoi ce chef papou, justement, vient à la rencontre, échanger, discuter et passer un moment vraiment pour comprendre, on va dire, l'univers que vit ce chef papou et comprendre ce film. C'est un peu ça.
Eh ben, en fait, c'est la suite du premier film, le Frère des Arbres. Et puis ça s'appelle Le Temps des Solutions parce qu'ils présentent les solutions, justement, qu'ils ont trouvées en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour préserver la forêt, ce qu'ils proposent.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ben ils plantent des forêts qui sont destinées à être coupées pour vendre du bois au lieu de déforester des forêts ancestrales.
Ok. Donc on propose en fait des solutions pour justement limiter l'impact et limiter surtout la déforestation.
Voilà. Puis c'est pour ça que c'est aussi les Aides en Transition qui va financer la projection parce que justement ils sont engagés au niveau du film vert pour présenter des solutions écologiques.
Et donc pour s'inscrire, le site internet
lesaintentransition.ch et il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est gratuit.
On vient,
venez librement.
Les informations elles sont sur le site. On se fait plaisir.
Exactement.
Et Stéphanie Dervais, vous voulez dire un dernier petit mot ?
Oui, on voudrait vraiment remercier l'American School parce que c'est eux qui hébergent l'événement et puis ils ont mis à disposition tout ce qu'on aura besoin. Et puis vraiment un grand merci à eux.
Et puis on rappelle
de rendre ça possible.
C'est donc le 1er mai à 19h30 à la Les American School. Et nous, d'ici quelques instants, après une pause musicale, on va justement écouter le réalisateur Marc Dezier. Merci mesdames.
Merci.
Merci. C'est chaud.
Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud. Sur le grill.
Gardien de la forêt, le temps des solutions, c'est cette conférence proposée à la Lézin American School, on le rappelle, ce 1er mai à 19h30. C'est le chef papou Munditjie Kepanga qui sera présent. Marc Dezier, bonjour.
Bonjour.
Vous accompagnez ce chef papou. Déjà juste, nous présentez qui est ce chef papou et après il faut qu'on parle aussi de vous.
Alors ce chef papou Munditjie Kepanga, c'est un chef coutumier traditionnel de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est devenu d'une certaine façon une voix des peuples autochtones et qui lutte contre la déforestation et qui vient à travers ce film Gardien de la forêt, nous parler de la question de la forêt, du réchauffement climatique avec des mots très simples qui nous touchent tous.
Ouais, et puis qui le touche lui particulièrement, les peuples autochtones énormément touchés, hein, que ce soit en Papouasie bien sûr, mais partout ailleurs, par la déforestation, cette problématique qui va l'amener, cette problématique vous la connaissez aussi très bien Marc Dezier, parce que vous êtes carrément quasiment papou vous.
Bon, pas tout à fait, mais moi je suis français, pour tout vous dire. Je suis français, évidemment je suis un fou des Papous, c'est comme ça que je me définis. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je voyage à travers la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et je suis ami avec ce chef Papou, Mounia Kepanga, depuis plus de 25 ans. Je suis son parcours, sa trajectoire de vie exceptionnelle, puisqu'il n'était pas destiné à voyager à travers le monde, mais suite à notre rencontre il y a plus de 20 ans maintenant, c'est vrai que ce chef Papou a eu l'occasion d'aller à l'UNESCO, de rencontrer des personnalités, Robert Redford, le prince Albert de Monaco, pour plaider cette cause des forêts primaires et de la protection de l'environnement, sachant que évidemment lui il considère que en tant que chef Papou, sa mission c'est de protéger ces forêts primaires, mais son message c'est de nous dire que nous tous, chacun d'entre nous a un rôle à jouer à notre niveau, dans notre jardin, notre ville, notre village, en Suisse, en France. Bref, chacun a un rôle à jouer pour qu'on continue à vivre sur cette planète.
Et justement, ce thème de ce film, hein, Gardien de la forêt, le temps des solutions, quand on entend le temps des solutions, est-ce que solution il y a et comment ça se passe ?
Oui, dans ce film qui a été réalisé pour Arte, on expose les solutions concrètes qui sont mises en œuvre en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et des solutions, il y en a un certain nombre en fait. Mais d'abord, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique et c'est le postulat de départ du film. S'il y a une volonté politique, il y a des solutions qui peuvent être mises en œuvre pour protéger les forêts. Alors, il y en a un certain nombre. Je vais pas toutes les révéler parce qu'il faut bien découvrir le film.
Bah, c'est le but.
Mais bien sûr, mais il y a des projets d'agroforesterie, par exemple. Il y a des projets aussi de forêts secondaires, ça paraît étonnant, mais en fait, planter des arbres et couper ces arbres 50 ans plus tard pour les replanter comme une exploitation, entre guillemets, forestière, ça permet de protéger la forêt primaire. Donc, ça fait partie des solutions qui sont exposées dans le film. Et si je peux me permettre de partager avec vous son ressenti ou la façon dont il a l'impression qu'il est accueilli, je crois qu'il est toujours, il a toujours l'impression qu'il est d'abord écouté. Parce que c'est vrai, on écoute, hein, il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde à ses rencontres et aux projections. Donc il a l'impression qu'il est écouté. Et puis ensuite, lui, il est très à l'aise. C'est quelqu'un de très charismatique, de très drôle aussi. Donc quand il est en public, il fait passer ses messages, souvent avec des phrases qui sont fortes, qui nous touchent, qui vont nous émouvoir, mais en même temps avec des formules qui sont très drôles, parce qu'il nous fait réfléchir aussi sur nous-mêmes, sur le sens de nos sociétés de façon plus large, et puis sur l'importance de préserver la nature de façon aussi un peu large.
Merci Marc Dozier. On rappelle donc cette projection conférence, les gardiens de la forêt, le temps des solutions, avec le chef Papou Mounia Kepanga. C'est un moment d'exception à vivre à Lézin, à la Lézin American School, ce 1er mai à 19h30. Toutes les infos, alvaudoise.ch ou lézinentransition.ch. Marc Dozier, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au 1er mai.
Merci. Au revoir.
Au revoir, merci.
Sur le grill.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Torréna.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. C'est Torréna. Ça souffle un petit peu, c'est normal. C'est normal dans la région. On se trouve devant la maison des contes. Ma très chère guide Yasmine.
Oui, pour moi c'est facile à trouver. C'est la maison certainement la plus colorée de Dorena, avec ses deux fresques de contes et légendes dessus. C'est aussi parmi les plus vieilles maisons de Dorena. Hein.
Ah ouais,
ouais. Je crois qu'elle a été construite en 1870. C'était une maison avec une écurie dessous, et puis dans les années 1990, fin des années 1990, Béatrice Dayer, qui était la propriétaire, elle reçoit cette maison en héritage. Puis elle décide non pas de l'habiter, mais elle était passionnée par les contes et légendes, et elle voulait en faire un lieu pour les contes et légendes d'Outre-Rhône, pour ce patrimoine valaisan, et même au-delà, le long du Rhône, patrimoine oral. Donc elle a fait la maison des contes et légendes. Il y avait beaucoup de conteurs. Petit à petit aussi, ça a essaimé un peu dans tout le Valais et ailleurs. Et puis, elle a continué à faire vivre. Et aujourd'hui, c'est une maison qui est dédiée plutôt à tout ce qui est patrimoine oral et patrimoine historique, des histoires des Alpes, quoi.
Ah, ça tombe bien, parce que c'est justement de ça dont je veux qu'on parle, de l'histoire de ce petit coin de paradis. Je crois savoir qu'ici, vous cassez un petit peu le caillou. Il y a une histoire d'ardoise. D'ailleurs, les toits des maisons environnantes, qui sont toutes anciennes, sont en ardoise.
Effectivement, on a actuellement une exposition cette année et depuis une année sur l'histoire des carrières d'ardoises de Dorena. Aujourd'hui, quand tu vois le village, mais c'est un joli village, il y a 1200 habitants, une petite activité artisanale.
Bon, le micro, il a coupé parce qu'il n'y avait plus de piles, on a dû changer les piles. On reprend. Oui, ça a coupé de manière abrupte, c'est normal. Donc, l'exposition sur les carriérans, parce que ici, oh mon Dieu, on a une image juste devant la maison des contes et légendes, avec un vieux train de mine, en fait, avec des petits rails, un bout de train de mine, et il y a une image magnifique avec deux monsieur avec un béret qui apparemment, il travaillait pas avec de la farine.
Non, effectivement, ici devant la maison, on a reconstitué un rail et puis un fond de wagon des mines d'anthracite. Parce qu'à Dorena, il y avait à la fois les mines d'anthracite, donc ce qui faisait le charbon, et puis les carrières d'ardoise qui étaient un petit peu plus tardives, C'était d'abord les carrières d'ardoise.
Ouais, tardives.
voilà. Donc, les carrières d'ardoise, ici, on trouve des filons, elles ont commencé à hauteur d'Alès. C'était les premiers filons là, et puis je dirais entre Dorena et Alès. Ça a été exploité depuis 1830 jusqu'en 1960.
Ah quand même, jusqu'à relativement tard.
Ouais, relativement tard. Après, il y a eu d'autres métaux.
D'autres matériaux,
et puis surtout une façon d'extraire qui était beaucoup moins pénible. Parce que l'ardoise, d'abord, c'était à ciel ouvert, et puis il suivait le filon d'ardoise et s'enfonçait dans la montagne. Il travaillait en deux équipes. Il y avait l'équipe qui était à l'intérieur, qui creusait le filon, qui découpait les premiers carrés, qui les sortait. Puis à l'extérieur, il y avait une équipe qui taillait l'ardoise déjà dans les 5-6 façons de tailler l'ardoise. Et après, il les descendait à Dorena. D'abord, c'est incroyable, mais sur des grosses luges en bois, il y avait 400 kilos. Et une personne, elle freinait, puis elle tirait cette luge en bois avec des patins. Et puis après, avec un câble, il les descendait à Dorena. Puis là, elles étaient vendues. Elles partaient ici à Dorena, à côté de la Maison des Comptes. On a différents toits. On voit toutes les sortes d'ardoises, des ardoises moins taillées, des ardoises plus taillées. Mais elles partaient dans toute la Suisse romande aussi. Ça s'est développé dans les villes à cause des incendies. 1850, des incendies à Lausanne, les toits recouverts de bois, le feu va plus vite.
Donc, et ils passaient d'un appartement, enfin d'un édifice à l'autre.
Voilà, et donc du coup, en mettant de la pierre sur les toits, ça freinait la vitesse de l'incendie. Donc voilà comment. C'était un métier qui était pénible, qui a fait vivre quand même passablement de familles. Mais je dirais, il y a toujours deux côtés. Donc ils gagnaient bien leur vie, ceux qui avaient les carrières d'ardoise, ceux qui y travaillaient. Puis de l'autre côté, ils payaient aussi un lourd tribut. Il y a eu des morts avec la manipulation de la poudre noire pour faire exploser les accidents de chantier. Et puis aussi la maladie à Dorena, que ce soit à cause des carrières d'anthracite ou des mines d'ardoise, il y a eu beaucoup de gens qui sont décédés de la silicose, cette maladie pulmonaire.
La maladie du mineur.
Exactement, la maladie du mineur, ouais.
Bon, un petit hommage à tous ces carriérans. C'est déjà quoi le sobriquet pour les gens de Dorena ?
Les diablerins.
Les diablerins. Un hommage à tous ces diablerins.
Et puis une visite à faire à la maison des contes et légendes, bien sûr, à Dorena.
Radio Chablais, programme de nuit.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangle ?
Sur Radio Chablais.
Alors, aujourd'hui, même si on est que mardi matin, l'heure est au festoiement. Ce week-end, je suis partie voir ma famille et pour célébrer nos retrouvailles, on a trinqué ensemble. Et là, c'est la cacophonie de superstitions. Faut regarder dans les yeux, faut surtout pas croiser. Les couples trinquent entre eux en dernier, etc., etc. Et ça m'a fait me poser la question, pourquoi c'est si important de se regarder dans les yeux quand on trinque ? D'où vient cette pratique ? Alors je me doutais un peu de la réponse et mes petites recherches ont confirmé ce que je pensais. En fait, au Moyen-Âge, c'était principalement les personnes de haut rang qui se retrouvaient à ces festivités et comme leur titre venait avec pas mal de jalousie autour, tout le monde se méfiait de tout le monde. Alors bonjour l'ambiance, hein. Et à l'époque, ils aimaient pas mal faire la guerre et l'arme qui faisait le plus fureur, c'était le poison. Donc ils ont instauré une règle tacite, c'est trinquer. Et à l'époque, les verres n'étaient pas faits de verre, hein, ils étaient beaucoup plus solides. Et quand on trinquait, on faisait entrechoquer les verres avec pas mal de force pour envoyer des gouttes de son breuvage dans celui de son voisin afin de mélanger les boissons. Et évidemment, il fallait trinquer en se fixant droit dans les yeux. Pourquoi ? Eh ben, tout simplement parce que ça permettait de déceler si son compagnon de boisson était stressé, apeuré ou en confiance. En gros, ça permettait de vérifier les intentions de ses invités. Et le premier qui détournait le regard était pris en flag. Ça voulait dire qu'il avait empoisonné le verre de son voisin et qu'il voulait vérifier qu'aucune goutte ne tombe dans son propre verre. Évidemment, maintenant... c'est plus le cas. Normalement, on n'empoisonne pas la personne avec qui on boit. On invente du coup pas mal de choses du style « Si tu regardes pas dans les yeux, tu vas avoir 7 ans de malchance !» juste pour perdurer une tradition dont l'origine nous échappe pour certains. Moi, j'ai voulu prouver ma théorie du trinquage. Je sais pas si ça dit, mais ça se dit sûrement pas, mais j'invente un mot. Donc, j'ai voulu prouver cette théorie et j'ai fait entrechoquer mon verre avec celui de ma sœur. Résultat, 2 verres pétés, du champagne gâché et des parents pas contents. Moralité, on va y aller mollo quand on trinque. Et si vous regardez pas dans les yeux, même si c'est pas poli, regardez au moins ce que vous faites avec votre verre pour pas l'exploser sur celui d'en face. Voilà, voilà.
La question improbable.
Pourquoi les pizzarons, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangle?
Sur Radio Chablais, bonne nuit, sur Radio Chablais.
La question...
Pardon?
Tu dis quoi?
Sur Radio Chablais.
Alors, on va rester dans la vibe du festoiement, vu que le thème de cette émission, c'est le festoiement, la fête. Et logiquement, après les festivités, beaucoup d'entre nous se réveillent le lendemain avec la gueule de bois. Et j'ai envie de passer cette chanson de Charles Aznavour qui résume pas mal cet état d'esprit.
Où as-tu mal ? Pourquoi as-tu mal à ? T'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain et encore plus après-demain.
C'est assez vrai en fait tout ça, hein. C'était les deux guitares de Charles Aznavour. Et donc ça m'a donné envie de décortiquer cette expression gueule de bois. Pourquoi le bois ? Pourquoi juste la gueule, hein, même quand le reste du corps ne suit pas ? Alors apparemment l'origine de cette expression pourrait trouver ses racines ou son explication dans la poésie. En fait le mot gueule ça vient du latin gula, qui veut aussi dire gosier ou gorge. Et le bois, ben, vu que sa texture peut être qualifiée de rêche et âpre, ça ferait référence à cette sensation de bouche sèche, de gorge qui pique à cause de la déshydratation, comme si elle était faite en bois. Donc pour tous ceux et celles qui ont déjà vécu un lendemain de soirée trop arrosée, je suis sûre que ça vous parle. Moi, je trouve que l'expression est très bien choisie. Ceci étant dit, il me semble important de rappeler à l'antenne que l'apéro, c'est sacré, il faut en profiter, mais... toujours avec modération. Souvenez-vous-en la prochaine fois que vous prendrez le vin de l'étrier. Ce qui me fait penser à cette question que je vous ai posée pour tenter de gagner les 2 entrées pour le plus grand dance floor du Valais. Eh bien, le tirage au sort se fait tout de suite, donc résultat dans quelques minutes.
La question...
Pardon ?
Tu dis quoi ?
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Voici les titres du journal.
Les retards dans la 3e correction du Rhône interpellent des députés du district d'Aigle au Grand Conseil vaudois. Un texte porté par Grégory Devaux sommant le Conseil d'État à accélérer le processus a été déposé mardi passé. Vaux souhaite atteindre un équilibre électrique d'ici 2035. Il devra pour ce faire poser près de 6000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques par an sur ses bâtiments. À Saint-Maurice, les forts du C et du Saint-Dé sont peut-être condamnés. L'un est déjà fermé au public et l'autre pourrait suivre, à moins de trouver des fonds pour des travaux de remise aux normes. La commission de la concurrence n'a pas chômé en 2023. La Comco a présenté son bilan ce matin à Berne, tout en présentant 2 décisions majeures.
Pour la météo, un temps en partie ensoleillé pour ce mardi. Pour demain, on débute le mois de mai sous les nuages. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Guillaume Abbé. Bonjour Guillaume.
Bonjour Axel, bonjour tout le monde. Les retards de la troisième correction du Rhône inquiètent les députés du district d'Aigle au Grand Conseil vaudois. Par la voix du syndic Aiglon, Grégory Deveau, un texte a été déposé mardi passé. Il est mentionné que les délais largement pas respectés de Rhône 3 pourraient engendrer certaines conséquences liées au développement économique de la région. Les explications de Grégory Deveau, député au Grand Conseil vaudois et syndic d'Aigle.
Alors concrètement, on est sur une résolution. L'objectif est de pouvoir mobiliser le Grand Conseil envers le Conseil d'État pour lui demander et souhaiter finalement qu'il puisse mettre tout en œuvre pour que le projet de troisième correction du Rhône avance. On a des signaux assez négatifs du côté du Coton du Valais. Il y a des enjeux d'importance pour l'ensemble du Chablais, pas que pour la sécurisation de la zone industrielle d'Aigle, mais pour la protection des crues envers la population, envers les biens, mais aussi avec des enjeux connexes, par exemple des mesures d'agglomération ou encore du palier hydroélectrique de Massonger.
Plusieurs autorisations de construire demeurent en effet bloquées dans les zones concernées pour les futurs travaux. Des projets de passerelles entre Vaud et Valais prévus dans le cadre de Chablais-Aglo sont également au point mort. Les détails de Grégory Deveau.
Concrètement, on a aujourd'hui des mesures de précaution qui sont appliquées à la zone d'activité d'Aigle, notamment l'impossibilité de délivrer certains permis de construire dans une partie de la zone, hein, qui est largement bâtie, donc c'est pas un énorme problème, si j'ose dire, en termes d'implantation d'entreprise, mais quand même quelques terrains qui pourraient se développer, respectivement une flexibilité de certaines entreprises à pouvoir reconstruire une halle, reconstruire, agrandir peut-être un espace. Donc ça, c'est un point très concret. Et puis l'autre point préoccupant, je pense, c'est que on a des projets de passerelles sur le Rhône, de franchissement, de ponts pour le ferroviaire ou pour les transports publics. Il faut qu'on puisse se prémunir de ça et puis concrétiser un projet qui a été largement étudié ces dernières années.
Ce texte déposé mardi dernier sera débattu aujourd'hui lors de la séance hebdomadaire du Grand Conseil vaudois, un sujet de Ludovic Turin.
Vaud a dévoilé hier les résultats d'une étude menée sur le potentiel solaire de ses bâtiments cantonaux.
S'il souhaite atteindre une autonomie électrique d'ici 2035, comme prévu dans le plan climat, il lui faudra poser près de 100 000 m² de panneaux photovoltaïques, soit l'équivalent de 16 terrains de football. Le plan d'action ne porte d'ailleurs pas uniquement sur la pose de ces panneaux, mais sur plusieurs points. Pierre D. Almeida, directeur général de la Direction générale des immeubles et du patrimoine.
Poser des panneaux photovoltaïques, environ 6 000 m² par année si on veut atteindre l'objectif autonomie électrique en 2035. Ensuite, un meilleur monitoring, c'est-à-dire que dans les bâtiments, on va avoir des éléments qui nous permettent de suivre la consommation d'énergie en temps réel. Puis le troisième, c'est évidemment faire des économies d'énergie, donc changer les éléments d'éclairage en LED. Un quatrième point, c'est aussi dire aux utilisateurs de consommer moins d'énergie, éteindre les ordinateurs quand ils sortent du bureau. C'est un plan global et si on veut atteindre cet objectif qui est quand même assez ambitieux, eh bien effectivement, il faut aller sur plusieurs fronts. Autrement, on n'y parviendra pas. Mais si on le fait, on y arrivera dans les délais qui sont donnés par le Conseil d'État.
Des propos recueillis par Léa Journeau. À noter encore que l'Université de Lausanne et le CHUV établissent également une évaluation de leur potentiel photovoltaïque. L'épisode de gel de printemps modéré devrait avoir un impact marginal sur l'agriculture en Valais. Des températures négatives avaient localement été mesurées dès le matin du 19 avril dernier dans la plaine du Rhône. Pour le secteur des fruits et légumes, aucun ravage significatif n'a été signalé. En viticulture, des dégâts importants ont été constatés dans les zones historiquement connues pour être sensibles au gel. En revanche, le coteau a largement été préservé.
Les fortifications de Saint-Maurice ont un pied dans la tombe.
Les forts du C et du Saint-Dé, situés à l'intérieur de la falaise surplombant la cité agonoise, sont confrontés à plusieurs problèmes qui pourraient entraîner à terme leur fermeture définitive. D'abord, les deux téléphériques servant à acheminer le matériel et les guides ne sont plus aux normes et le coût de leur transformation avoisine le million de francs chacun. De plus, la prise d'eau servant à l'alimentation des forts est bouchée. Pour l'heure, la fondation Forteresse Historique, propriétaire des lieux, a opté pour une fermeture du C en attendant de trouver une solution plus pérenne, sachant que la demande existe puisque le fort de Dailly à Morcle a trouvé son public. Serge Monnerat, président de la Fondation Forteresse Historique.
voyez, la route de Daillé qui nous y mène, vous l'avez faite, c'est pas du tout un frein. Les gens, aujourd'hui, ils veulent arriver avec leur voiture le plus proche possible et visiter immédiatement. Ils sont prêts à mettre plus d'argent. On voit pour d'autres fois, le prix de l'entrée ne les rebute pas. Les gens veulent pas faire, c'est faire 2 heures de marche pour aller visiter un fort. C'est que des passionnés qu'on arrivera à faire venir. Non, je pense qu'il faut investir maintenant. C'est la seule solution.
Des propos recueillis par Valérie Favre. Et si vous souhaitez découvrir une partie de l'aspect patrimonial des fortifications à Gauloise, rendez-vous jeudi après-midi dans le MAG. La possession, la culture et la vente de cannabis devraient être libéralisées en Suisse. Un comité citoyen a lancé une initiative populaire en ce sens, annonce aujourd'hui la chancellerie fédérale. Le texte devra réunir au moins 100 000 paraphes d'ici le 30 octobre 2025. L'économie suisse reprend quelques couleurs en avril, selon le baromètre conjoncturel du COF publié aujourd'hui, mais aucune relance forte n'est actuellement en vue. Le baromètre conjoncturel a gagné 1,4 point en avril pour atteindre 101,8 points après 2 mois consécutifs de baisse.
Travaux de génie civil, cartes bancaires, parfums. La commission de la concurrence a beaucoup enquêté l'an dernier.
Et la Comco a présenté son bilan ce matin à Berne. Elle a prononcé 2 décisions majeures pour éviter des entraves à la concurrence. Une entreprise de gestion des déchets dans la région de Bâle favorisait ses actionnaires avec des réductions de prix. Et Swisscom était en train de modifier son réseau de fibre optique pour en limiter l'accès à ses concurrents. Un cas emblématique des infrastructures de réseau qui sont souvent des monopoles. Les explications de Patrick Ducret, directeur de la Comco.
Une infrastructure, normalement, elle est construite par une entreprise, elle est utilisée par une entreprise, et puis il ne fait pas de sens pour un concurrent de reconstruire une deuxième ligne. C'est beaucoup trop cher, et puis ça ne fait pas de sens non plus d'un point de vue économique et social. Ça veut dire que si une entreprise détient une infrastructure, elle détient une ligne, un câble, il fait sens de donner accès à des entreprises concurrentes pour qu'eux puissent aussi utiliser ce câble, cette infrastructure, pour offrir quelque chose aux consommateurs.
Et dans le domaine de l'énergie, ça arrive aussi ce genre de problème de réseau?
Oui, tout à fait. On avait un cas dans le canton de Fribourg. 2 sites de production de la Migros à Courtepin et Estavayer voulaient acheter le courant, pas des entreprises électriques fribourgeoises, mais d'un autre opérateur. Et les entreprises électriques fribourgeoises refusaient l'accès à le réseau, à ce concurrent. Et la Comco a décidé non. L'entreprise électrique fribourgeoise doit donner l'accès à ce réseau pour qu'une certaine concurrence puisse aussi se déployer dans l'achat de l'électricité.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Marie Vieumier. La Comco a aussi suivi de près le rachat de Crédit Suisse par UBS. Elle a fait des recommandations pour garantir la concurrence dans ce secteur. En sport, en football, la demi-finale de Coupe de Suisse entre le FC Sion et le FC Lugano pourrait bien se rejouer au tribunal. Le président du club valaisan, Christian Constantin, a en effet demandé à l'Association Suisse de Football la répétition de la rencontre, selon le Nouvelliste. Cessé a motivé sa démarche par l'absence de la VAR lors de la rencontre de son équipe samedi soir, alors que le dispositif était disponible et actif dans l'autre demi-finale, opposant Servette à Winterthur. La requête du président Constantin a été également transmise à Swiss Sport Integrity, l'organisme qui gère les cas de violation des statuts d'éthique de Suisse Olympique.
La fête du football féminin avec ou sans argent supplémentaire de la Confédération.
Message relayé hier soir par l'ASF, le canton du Valais et la ville de Sion à l'occasion de la soirée de lancement de l'Euro 2025. Philippe Varone, le président de la capitale cantonale, l'avoue, le budget des festivités n'est pas encore fixé car un soutien fédéral est encore dans la balance. Mais pas question de livrer un événement au rabais.
Il faudra peut-être faire avec moi, mais je suis plutôt confiant. Et on sait clair qu'aujourd'hui, on dimensionne nos projets avec la possibilité d'étendre, d'élargir l'offre. En ce qui concerne les infrastructures, ça c'est le rôle du propriétaire et de la ville. Mais c'est surtout pour moi ce qui me ferait chaud au cœur, c'est d'avoir quelques moyens financiers pour que la fête soit dans le stade de Tourbillon, mais aussi hors du stade, que la ville vibre et puis qu'on puisse laisser un héritage de qualité pour les footballeurs, les footballeuses, les familles qui vont venir en masse.
Et Philippe Varone était avec notre confrère de Rhône FM. Ce qui est certain, c'est que la ville de Sion n'aura pas de fan zone pour l'Euro 2025. Un fan walk est dans les plans, soit un parcours rempli d'animation de la gare au stade de Tourbillon en passant par la place du Midi. Et enfin, toujours en football, après 4 années d'absence, le Bayern de Munich retrouve ce soir le dernier carré de la Ligue des Champions avec une demi-finale 20 étoiles contre le Real Madrid. Le record Meister entretient son rêve de revoir Wembley en finale, comme lors du triomphe de 2013.
L'actu en continu sur radiochablais.ca. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Ferrand.
Plan Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan Large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Anaïs Guéron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes danseuse, chorégraphe. On va parler avec vous d'un spectacle à la folie hein, que vous allez produire, enfin donner au Théâtre de l'Oriental à Vevey. C'est à Vevey qu'on se rencontre, ça a du sens. C'est là que vous travaillez en ce moment.
Exactement. Exactement. On vient d'arriver, là, on a amené le décor ce matin.
Voilà, donc au Théâtre de l'Oriental, ça va se jouer en marge, hein, mais dans le cadre quand même de la fête de la danse, début du mois de mai chaque année. Et votre spectacle, donc, c'est du 1er au 5 mai, je le redirai, au Théâtre de l'Oriental, donc à Vevey. Vous êtes danseuse et chorégraphe, vous interprétez, vous êtes la folie, j'ai vu. Hein.
Oui.
Il y a un personnage qui doit dealer un peu avec sa folie. On en parlera un peu plus dans la deuxième partie de l'émission. Mais puis vous, c'est la folie, c'est ça?
C'est ça.
Bon, on y reviendra. Qu'est-ce que... alors moi, je vous ai dit tout de suite, hein, je dis la danse, c'est vraiment pas mon milieu. Je connais pas ce monde-là. Vous avez l'amitié de me permettre de vous poser peut-être des questions un peu sottes. J'ai l'impression qu'il y a un cliché. Les petites filles font de la danse, les garçons font du sport, ils font des sports de combat, etc. C'est un cliché, évidemment, parce qu'à la fin, il y a des femmes qui dansent, il y a des hommes qui dansent, il y a des femmes qui font du karaté, il y a des hommes qui font du karaté. Comment ça vous est venu, à vous, la danse?
Alors, la danse, ça m'est venu, je pense, depuis toute petite. Évidemment, c'est très cliché aussi ce que je vais dire, parce que je crois que j'ai demandé à faire de la danse la première fois où on m'a emmené voir un spectacle de Béjart. Voilà, c'est fait. Et puis, j'ai trouvé ça magnifique.